Vous savez qu'ils m'ont choisi pour remplacer Jean-Yves à Radio Alpa ?
John, t'es à l'antenne.
Ah, ok. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue dans Galéjade, émission culturelle et intellectuelle présentée par nous, John et Geoffrey, sur Radio Alpa. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end sous ce soleil de canicule qui annonce quoi ? La fin du monde.
Apocalypse.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, n'est-il pas, Geoffrey ?
Oui, aujourd'hui, je suis à jeun.
Exactement. Et pas que, parce qu'aujourd'hui, ça y est, on l'a fait. C'est la 19e. C'est la dernière émission de la saison, mes amis, on peut le dire. C'est une émission assez spéciale, un peu comme toutes les autres d'ailleurs. C'est un running gag qu'on fait régulièrement. Du coup, pour comprendre, je vous invite à redécouvrir toutes nos autres émissions sur le site de Radio Alpa. Hashtag Galéjade, hashtag stage de 3e en milieu culturel. Hashtag...
Hashtag on n'a toujours pas notre carte d'adhérent, et c'est la dernière.
Exactement. Bref, aujourd'hui c'est un peu notre kermesse de fin d'année à nous, donc beaucoup de nostalgie traverse ce studio, mesdames et messieurs. Et donc pour commencer, on aimerait remercier mille fois tous nos invités de cette année, pour ces moments forts, remplis de joie et d'amour. Donc souvenez-vous, hein, certains couples se sont formés grâce à Galéjade, ici dans ces studios, d'autres ce sont des faits, ce sont des choses qui arrivent. Et il y a même eu un enfant qui a vu le jour dans les studios, mesdames et messieurs, ici sur Galéjade, c'était celui de Geoffrey.
Ouais, le fils, c'est mon fils, il s'appelle Régis Elvis, il vient d'avoir 3 mois.
C'est son anniversaire.
C'est son anniversaire dans 7 mois. Non, 9 mois. Ouais, je sais plus, je suis complètement perdu.
Donc je laisse Geoffrey continuer à présenter le programme d'aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, nous avons donc le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir Mathieu, qui était avec nous lors de la première émission. Puis il a sombré dans la sombre spirale de la contrebande de cartes Pokémon qu'il faisait faire clandestinement par ses enfants. Parti en centre de réhabilitation, on a eu un coup de téléphone en début de matinée. On était ses garants. Ouais. Donc Mathieu réintègre l'émission ce soir. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ?
Bonsoir, bah ça va très bien, merci de m'accueillir à nouveau.
Ouais, par contre, prends pas trop tout de suite le melon, hein. Sinon on te renvoie illico presto en ouf. Donc aujourd'hui, la dernière émission de la saison. Notre invité c'est donc Didier, figure mancelle de la scène théâtrale. Et au programme de cette émission, ça sera d'abord un entretien avec notre invité, une petite chronique que Mathieu va nous faire, et on terminera avec nos recommandations culturelles. Bonsoir Didier, comment vas-tu ?
Bonsoir Didier.
Bonsoir, j'ai chaud, mais je suis ravi de venir. C'est quoi le problème ?
Alors tu vas nous galéjade, c'est notre première saison, et tout de suite on a pensé à toi.
Ah bravo, bravo. Pour clore en beauté vos 19 épisodes.
Exactement, on voulait finir en feu d'artifice.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va écouter le premier son, qui fut le premier son partagé également par l'émission Galéjade. C'est donc Rotterdam, avec le son Paradis perdu. On vient juste après.
Une larme coule dans le noir, ton nom résonne, c'est mon credo, qui me rattrape tôt ou tard. La brume caresse les vagues, j'essaie de fuir mes défauts, mes démons sont sortis ce soir. Le compte à rebours a commencé, les heures défilent et je ne peux imaginer tes secrets. C'est un travail de longue haleine, j'ai dû prendre quelques Long Island pour transformer l'amour en haine. Je tourne en rond et me souviens que mes idées t'ont incité à toucher le fond et l'air de rien. Il est trop tard, je suis enchaîné. Et déjà, mon cœur s'emballe et je suis devant toi, comme un parfait inconnu. D'un seul geste, tu ravives mes appétits. Tu es là, mon paradis perdu. Je tourne en rond et me souviens que mes idées t'ont incité à toucher le fond et l'air de rien. Il est trop tard, je suis enchaîné.
Écoutez, Gal et Jade, vous êtes toujours avec nous, avec Rotterdam, Paradis. Excusez-moi, j'étais à fond dans la musique, elle était vraiment géniale.
Et tu l'avais quasiment jamais entendue, cette chanson-là.
Bah oui, en plus. C'était la toute première de Gal et Jade, premier épisode, épisode 1. Ce soir, nous sommes avec donc notre invité du jour, Didier Bardou. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci.
Un peu timide?
Non.
Donc, on peut dire que tu es donc une figure mancelle de la scène théâtrale.
Disons ça, alors, oui.
Donc, qui es-tu vraiment, au final, Didier ?
Je m'appelle Didier Bardou, je suis né le 26 novembre 1964 après signé. Il ne devait pas faire tellement chaud chez moi au mois de février, parce qu'en fait, sur 5 enfants, on est 3 à naître en novembre. Je pense que j'ai été mis au monde par le docteur Claude, donc c'était le premier accouchement, qui avait été accompagné par sa femme, qui était, elle, sage-femme. Je pense que d'ailleurs, j'étais pas l'enfant de trop, mais j'étais, tu vois, 5 ans après le frère aîné, ça faisait, enfin, le frère plus grand, ça faisait un peu, voilà. Et mon père, il travaillait à l'usine, à la carte.
Il y a peut-être un souci technique, parce que là, je comprends pas tout ce que dit Didier.
On est tranquille ce soir, là, c'est...
J'en ai 40 pages pour ça sur ma vie et 200 pages sur mon œuvre.
Ça donne envie d'être proche de ta famille en tout cas.
Ton frère a l'air très sympa.
Ils sont tous vers Sablé et ils votent tous Fillon.
Ah, excellent. Bah, désolé.
Eh ben on embrasse Sablé.
Donc Didier, donc c'est ta passion, c'est le théâtre. On peut dire ça.
On peut dire ça, ouais.
Tu as fondé des compagnies sur le Mans.
Un peu. Vraiment par accident, je suis tombé d'une falaise en 1981.
Vraiment?
Vraiment, oui. Et du coup, j'ai travaillé comme animateur au Mutuel du Mans, animateur au comité d'entreprise des Mutuelles, et j'ai eu envie d'arrêter ça. J'ai rejoint l'équipe de la MJC Ronceret pour s'occuper du rachat du cinéma La Royale, dont la ville à l'époque n'a pas voulu nous donner les clés, bande d'enfoirés. C'est à la MJ Ronceret que j'ai recroisé les gens de l'Enfumeret que je connaissais parce que j'étais au collège à Sablé avec Jacques Gouin, le célèbre mystérieux de la cathédrale. Et les camarades de l'Enfumeret cherchaient quelqu'un, un paperassier, administrateur, vendeur et je sais pas quoi, et prospecteur. Et voilà, j'ai rejoint l'équipe de l'Enfumeret à Alonne au tout début de sa professionnalisation en 83. Et je suis devenu comédien parce qu'on montait un gros spectacle qu'on pourrait plus faire aujourd'hui qui s'appelait Sorcière, d'après la sorcière de Michelet, sur les femmes battues, les femmes soumises et insoumises. Et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter des histoires et à devenir comédien.
Et après, donc, il y a eu l'épisode avec l'épidore Bouloir.
Alors oui, après, donc, j'ai rencontré aussi un camarade de jeu qui s'appelle Pierre Sarzac, avec qui on a créé une compagnie en 87, je crois, c'est un peu l'histoire de France. Compagnie d'ailleurs qui va s'arrêter, toutes activités cessantes le 31 décembre. Pierre, il travaille en ce moment la liquidation, entre guillemets, des corps, du matériel et des dossiers et des paperasses. Et on a navigué jusqu'à Bouloir. C'est drôle parce qu'en fait, c'est en 91, on est en train de jouer un spectacle au Mans avec un des comédiens parisiens et il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi vous accrochez au Mans, il y a déjà plein d'autres compagnies qui ont des lieux, des machins, pourquoi vous allez installez pas dans le patelin où vous travaillez déjà. On s'occupait de la mise en scène de la troupe amateur. Moi, je m'occupais de la programmation du festival. Ouais. Et en 94, on s'est installé à Bouloir. Et on y est resté 15 ans jusqu'à... Enfin, on a ouvert le théâtre Épidore et on y est resté 15 ans. Voilà.
Ok. Mais le théâtre Épidore continue toujours de fonctionner aujourd'hui.
Et le théâtre Épidore, c'est un bâtiment. Donc, voilà, à qui on a donné une âme, je sais pas, mais en tout cas une envie des gens du territoire de venir voir que les spectacles c'était aussi pour eux. Et tant mieux, à notre départ, c'est une équipe de 203, Didier et Denis, qui ont repris le flambeau et qui ont gardé la vieille machine à laver de chez mes parents, les assiettes et tout ça.
Et donc tu regardes un beau souvenir de cette expérience.
Ouais, c'était une belle aventure parce que justement on a vécu la construction, enfin la rénovation d'un bâtiment, mais ça tient à des trucs très très bizarres la vie. En fait, en 94, on crée un spectacle dans la cour d'un institut Saint-Julien qui est un grand bâtiment, une bonne sœur, qui a été une maison de retraite, un truc de religieuse. Et tout le monde dit ah bah c'est bien, ça serait bien de faire le théâtre là-dedans quoi. Voilà. Et au moment où le tractopelle arrive, le bâtiment s'ouvre de 7 cm et du coup il faut retrouver beaucoup de sous. Mais le maire de l'époque qui s'appelait Raymond Douillère était franc-maçon, médecin de campagne franc-maçon et socialiste. Ça va ensemble tout ça. Salut Raymond. Et voilà, et là, il a fait pleuvoir un peu de la réserve parlementaire et on a pu faire sortir ce théâtre de terre qui, en 2001, donc on a attendu 7 ans. Mais c'est tout ce travail de terrain et d'action culturelle de proximité qu'on a fait ce temps-là qui a sûrement été payante. Quand on a ouvert le théâtre, il y avait des gens dedans, quoi.
Et donc, tu étais jusqu'à Bouloir jusqu'en
2009, on a quitté. Ouais.
Et après, donc, tu as enchaîné avec quoi?
Alors après, on a rejoint. On s'est dit, on est des mecs super, il y a plein de monde qui va nous appeler. Je sais pas, on avait du mal brancher la prise de téléphone et pas grand monde qui a appelé tout de suite.
On s'est dit la même chose, nous, ouais. Avec l'émission de radio.
Bah oui, c'est ça. Et du coup, voilà, on a pris les chantiers un peu, autant Pierre que moi et les autres, voilà. Et on a beaucoup travaillé après sur Eve, la scène universitaire qui ouvrait un peu à ce moment-là. Je suis, je crois, le premier comédien à avoir foulé le plateau de Eve. Salut Julie. Et du coup, voilà, on a fait un centre de travail là-bas, à travers notamment l'atelier théâtre de l'université, la licence pro culture et ainsi de suite.
Et ça, donc tu es officier là-bas pendant combien de temps à peu près ?
On a continué à créer des spectacles de ci, de là. Moi, j'ai créé un spectacle à l'Écluse. Pierre, il a créé un spectacle au théâtre.
Donc, ouais, vous n'étiez pas figé dans la salle de...
Non, pas du tout. D'accord. Pierre, il a monté Arthur Witt Brecht avec 13 comédiens qui étaient programmés au Quinconce il y a 4 ou 5 ans à peu près, qui était un gros bazar quoi. Voilà, lui il monte plutôt des spectacles plus ambitieux, Pierre Sarzac de la compagnie NBA, salut mon camarade. Et du coup on était un peu à deux vitesses entre guillemets. Moi je créais plutôt des petites formes, voilà, des histoires de gens, voilà, plutôt des histoires de gens. J'ai plutôt écrit des choses qui n'étaient pas du tout du théâtre, qui étaient de la matière pour que le metteur en scène me dise ça oui, ça non, ça on peut le faire, ça sûrement pas et tout ça. Et j'étais assez docile là-dedans quand je travaillais avec des metteurs en scène de dire la quatrième page, on s'en fout, on la jette, on n'en a pas besoin quoi. Mais si je peux me faire non pas un hommage, mais j'ai eu la chance au cours de ces années de jouer beaucoup. Moi, j'ai dû créer une dizaine de spectacles. Grosso modo, en moyenne, j'ai joué 100 fois, ce qui est beaucoup. Ouais. Là, les gens jouent plutôt leur spectacle entre 5, 20 ou 30 fois, voilà. Et il y a 2-3 spectacles qui sont plutôt bien vendus, entre guillemets, notamment un truc qui s'appelle Le Jardin de ma mère, où je racontais le jardin de ma mère et son jardin secret. Parce qu'elle était sorcière, évidemment, ma mère. comme toutes les mères. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance de beaucoup jouer plutôt en région. Voilà, plutôt en région.
Et donc tu parlais de mise en scène, tu avais un metteur en scène ou plusieurs, mais toi tu n'as jamais fait de mise en scène ou aussi ?
Pas vraiment, j'ai jamais mis en scène de spectacle professionnel qui jouait dans des lieux. J'ai mis en scène des groupes amateurs genre l'Atoum, l'atelier théâtre de l'université, ou d'autres groupes dans la campagne, des ateliers, des troupes de village, mais jamais j'ai fait ça parce que je pense que j'ai les idées, mais j'ai pas forcément la capacité de ce qu'on appelle dans le jargon la direction d'acteur, dire d'aller gratter suffisamment dans le travail du comédien pour lui faire sortir son je sais pas quoi, son virus, son sang, sa qualité, son extrême et tout ça. Voilà. Son âme.
Et c'est quoi ton souvenir le plus fort sur scène, toi? Est-ce que t'as un souvenir parmi tous tes 100 expériences?
Alors, je disais, j'ai fait plutôt un boulot sur la mémoire des petites gens, voilà, qu'on avait appelé la trilogie des hommes ordinaires. J'ai fait en 98 un spectacle qui s'appelait Malpère ou la mémoire impossible, qui racontait l'histoire de l'usine de Malpère, donc une poudrière qui a pré-signé près de Sablé, qui à l'époque, quand j'étais gamin, mon père travaillait là-bas, et il y avait 2000 salariés qui fabriquaient des bombes, des grenades et des obus. Et en 1964, le 19 février, j'ai 10 ans, et ça pète, et les trois mecs qui bossent avec mon père, Million, Ferré et Plancheteau, partent en 1000 morceaux. Donc j'ai toujours pensé que j'aurais pu être un orphelin de Malpère, voilà. Okay. D'où l'envie de, je sais pas combien d'années après, de créer, de 30 ans après, de créer un spectacle qui racontait ça, avec un texte assez beau écrit par un auteur du Mans qui s'appelle Jean-Pierre Tétard, salut camarade. Et c'est une belle.
Ça doit être
aussi dans mon travail une manière de dire que moi qui ai un petit gars de pressigné, quoi. Enfin voilà, comment en étant un fils de prolo, on peut quand même au théâtre raconter ouais. Les histoires de gens simples et ordinaires et les valoriser entre guillemets.
Ah non, j'imagine pour toi ouais, c'était quelque chose de très important et le représenter, parler de tes origines, parler un peu de toi.
Carrément, et c'est pour ça que je sais pas pourquoi, mais que j'ai eu envie de faire un truc sur ma mère après. Ouais. Après, voilà, j'allais pas faire non plus faire chier tout le monde. Enfin, chier tout le monde avec mes frères et sœurs et tout ça, mais.
Après, t'as écrit quelque chose quand même sur toi.
Ouais, alors j'ai fait un spectacle qui s'appelait Les Orphelins de la République où il y avait la photo où on est des gamins au catéchisme dans la cour de chez Gabriel Chéneau qui était la nièce de François Michelin, le PDG de chez Michelin, et à l'époque elle habitait dans le village, elle habitait pas encore son manoir et piscine et j'ai envie de dire mais qu'est-ce qui fait que on est mignons tous sur la photo, qu'est-ce qui fait que nos vies divergent, que Mathieu, Jonathan ou machin ils sont on n'a pas en, que un devient professeur d'espagnol et vote extrême droite et l'autre est devenu patron d'une crêperie à Sablé quoi. Et à partir de cette photo, voilà, j'ai fait un spectacle bifrontal, voilà, avec Denis Monjanel et Cyril, qui ont été souvent mes compagnons de route, voilà, qui interrogeaient là encore nos passés et nos futurs. C'est joli ça, nos passés et nos futurs.
Tu devrais l'écrire.
Et nos futurs avec un S. Nos futurs avec un S. Et non pas nos futurs.
Je pense qu'on va faire un petit moment une petite pause musicale et puis de toute façon on va revenir juste après pour parler de tes projets parce que
ouais, y en a 14.
14 projets, non, donc, c'est pas vrai. Donc voilà, on aura le temps d'en discuter. Et puis je laisse Geoffrey.
Donc on lance Serge Reggiani avec Mon petit garçon et on revient juste après.
Et on pourra dire pourquoi.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas. Ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdu parmi les choses dans cette grande chambre seule. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois. Ne pleure pas, attends, je sais des histoires. Mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimaient et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.
Vous êtes toujours sur Galéjade, c'était Serge Reggiani.
Reggiani.
Mon petit garçon, donc un choix de notre invité, Didier Bardou. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette chanson?
Alors pas forcément cette chanson, enfin quoi que je connaisse... Alors c'est, il y a plusieurs histoires avec Reggiani. La première c'est que j'ai 10 ans, t'as vu j'ai beaucoup 10 ans dans cette émission ça, il y avait la fête du Quenio qui était une espèce de course aux fleuries à Sablé, et après il y avait un concert gratuit au jardin pudique, et j'ai vu Serge Reggiani sortir de sa caravane, parce qu'il n'y avait pas de loge aussi extraordinaire que ça à l'époque, ce petit bonhomme frêle, car il l'a toujours été, qui était quand même une grande vedette, casque d'or avec Simone Signoret et ça, et chanter devant 2000 personnes, et je sais pas, alors je dis, je suis pas sûr que c'est ce jour-là que j'ai eu le déclic de me dire un jour je ferai ça comme métier, je ferai chanteuse, mais quand même quoi. Et le premier disque que j'ai acheté après, évidemment, ça a été un 33 tours de Serge Reggiani, et aujourd'hui on m'a offert il y a quelques années l'intégrale en CD de l'œuvre de Serge Reggiani, et j'en connais beaucoup comme plein de gens, parce que c'est un chanteur populaire. Voilà.
Ah, j'ai vu que Mathieu à côté de nous.
Il chantait à fond,
ouais.
Mathieu était à fond.
Ouais. Ah, la honte.
Il connaît.
T'écris des chansons, toi, Didier?
Mais j'ai écrit quelques chansons pour des spectacles. Je disais à John que j'aurais pu faire chanteur, en fait, comme métier. J'ai beaucoup aimé ça. La seule fois où j'ai vraiment chanté dans un spectacle, là, c'était dans Tuyard, Revolver et Langue de Chat, qui était un drôle de titre, qui était aussi un drôle de spectacle, qui était un truc sur le thème des voisins. J'avais fait tout un boulot d'interview de gens. C'est comment les voisins, comment vous avez à gérer, enfin voilà, comment ça se passe avec les voisins. Quoi. J'ai fait vraiment beaucoup, une trentaine, donc j'avais du matériau à partir desquels j'ai écrit ce truc que quelqu'un m'a dit, mais c'est pas du tout un spectacle, c'est plutôt un truc à mettre dans les musées, tout ça, parce que c'est une espèce de performance, de suite, de séquence où je jouais moi, je jouais ma mère, je jouais moi qui jouais ma mère, enfin tout ça. Et ça commençait pas par une chanson, mais il y a une chanson, c'est jamais on ne saura les causes de l'accident quand la 404 a buté de l'avant, rond-point des Trois Poiriers, elle a tué le Vincent. Il n'avait pas 10 ans. Voilà. Et c'est une vraie. Voilà. Ouais. Bravo, on dirait Didier Bardou dans les studios de Radio Alpa. Et en fait, c'est une vraie histoire. Parce qu'en fait, la fameuse dame qui m'a mis au monde, la femme du docteur Collot, elle emmenait son gamin tous les jours au collège de Sablé. Et un matin, elle a eu un accident de voiture au rond-point des Trois Poiriers. Et voilà, il y a eu un accident. Et c'est le premier enterrement où je suis allé, je crois. Donc, pareil, je suis au collège. Je suis dans la même classe que François, son frère, celui qui est devenu prof d'espagnol, Gnoll. Et du coup, ça m'avait marqué au point de vous l'avoir envie d'en faire une chanson, quoi. Mais j'écris beaucoup des chansons à deux balles. C'est-à-dire, je suis parti en vacances avec des copains dans les voitures pour les gamins. Alors j'écris vraiment des chansons, des rimes nulles. Je sais pas, j'en ai encore fait une, je crois, hier. J'étais invité chez des gens, mais je m'en rappelle déjà plus, quoi. Enfin, elles font deux phrases, mais
voilà. Sur un album.
Ouais. Je sais pas, oui, non. Ouais, on fait ça, les gars.
C'est bon,
il y a rien. J'y vais, on écrit, on trouve, voilà. Et Geoffrey, tu nous trouves la musique et on enregistre le premier album produit par Jean-Yves Breteau de Radio
Galéjade. Enregistré dans les studios de Galéjade.
Bon, du coup, Didier, il faut absolument qu'on parle de tes projets.
Oui.
C'est quoi tes projets pour l'avenir, là, pour la rentrée, là, septembre?
Mes projets, septembre, du travail, on parle du travail, là.
On parle toujours du travail.
Des croisières que je vais faire sur mon yacht personnel, non, ça, non, mais.
On peut en parler, mais après, en off.
Je reprends le spectacle qui s'appelle Qui a tué mon père, où je joue avec une jeune compagnie du monde qui s'appelle Et alors Compagnie, Bertrand Cauchois, Marie Disset, Louis Kervella. Une mise en scène de Marie. C'est le texte d'Edouard Louis. Edouard Louis, c'est le petit gars qu'on voit à la télé tout le temps, qui parle bien comme philosophe, qui est ce qu'on appelle dans le jargon un transfuge de classe.
Je connais très voilà. Bien, je suis en train de dire tout.
Voilà.
Ces romans.
Ouais, on en a parlé il y a pas longtemps.
C'est Annie Ernaux, c'est Didier Héribon, c'est la même bande que ça. Et c'est, voilà. Et donc, on a fabriqué un spectacle, on a mis du temps, c'était en plein Covid. Un spectacle qu'on a créé, en fait, au théâtre Scarron, voilà. Et on rejoue ce spectacle à Ève, à la scène universitaire, en octobre.
Voilà. Génial. Bah, du coup, tu me réserves une place?
Je vous réserve des places, surtout que, paraît-il, je parle peu dans ce spectacle et ça fait du bien aux gens.
C'est marrant parce que Edouard Louis, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière.
Non, il y a peut-être deux émissions maintenant.
Il y a deux émissions, ouais. Il y a deux semaines. Et du coup, il a mis un petit commentaire sur.
Ah ouais, trop bien.
Il nous a mis des fleurs pour me remercier.
Ouais, trop bien.
Génial.
Et ce qui est très bien, enfin le dernier opus là, parce qu'il a, le premier c'est Eddie Belgueule, pour en finir avec Eddie Belgueule, où il raconte qu'il change sa gueule, qu'il change de nom et tout ça.
Exactement.
Donc fils de prolo, plus que prolo quoi.
Exactement.
Dans la région d'Amiens, si cher à notre président Macron, et le dernier opus, la gros pavé qui s'appelle Changer quand même. Là c'est assez intéressant sur la méthode qu'il a utilisée lui pour passer d'un monde populaire à un monde bourgeois. Ouais. Voire il a côtoyé les aristos, les grands aristos. Et il raconte ça et toute sa quête pour accéder au savoir et au pouvoir et de dire bon après tout faut que j'accepte à un moment d'être le fils de mon père et de ma mère quoi.
De toute façon on en reparlera entre nous.
On fera une émission spéciale Edouard Louis.
Ah ben,
on reviendra parler d'Edouard Louis.
On l'invitera. Je suis sûr qu'il sera content de venir.
Ah bah s'il est chaud pour venir, c'est avec un grand plaisir, la porte est ouverte.
Il est très très sollicité parce que son œuvre commence à être diffusée un peu, traduite dans 30 pays au moins, donc il est invité partout. Il y a plein de gens, des metteurs en scène célèbres ou des réalisateurs qui ont commencé à mettre le grappin sur son œuvre et je pense qu'il est... Nous on l'a pas côtoyé directement, on traite avec son avocat pour avoir les droits. Entre
je mets ma main à couper qu'il est au Mans l'année prochaine, c'est dans mon émission.
Il sera au Mans, on mettra
déjà, est-ce que l'avocat va nous répondre?
Les mains d'Edouard Louis à couper.
Donc on a ça, c'est ça octobre. Exactement.
Ça c'est octobre.
La suite.
Là t'es en vacances pour l'été alors?
Oui, je suis en vacances. Ah ben non, je suis pas complètement en vacances en fait. Parce que j'écris. Alors c'est pareil, c'est une drôle d'histoire. Enfin une drôle d'histoire. Il y a longtemps, au moment où on était à Bouloir, avant que le théâtre y ouvre, on a créé un spectacle qui s'appelle Moi Louis Simon. Louis Simon, c'est un tisserand de la Sarthe qui fabrique l'étamine du Maine. Alors, personne ne sait ce que c'est, sauf tout le monde connaît la sirène, au Mans, où il y a la sirène. Et la sirène, elle est sur la maison d'un monsieur Véron de la Forbonnais, qui était l'exportateur de l'étamine du Maine. C'est un lainage entre coton et laine, on va dire, qui faisait les habits blancs des moines et des curés dans les pays chauds. Il y avait 700 métiers à tisser dans le département. Donc il y avait, on va dire, 150 au Mans et partout dans les cambrousses. Donc ils tissaient ça, ça poussait dans les champs. Et Louis Simon, lui, il est dans un bled, ça s'appelle la Fontaine-Saint-Martin, entre le Mans et la Flèche, à peu près, sur la Nationale, à côté de Serran-Foultourte. Il a appris à lire et à écrire dans les jupes de monsieur le curé. Et dans ce bled, il y a un couvent tenu par des bonnes sœurs, où il y a des bonnes filles parisiennes qui sont là, placées. Et au soir de sa vie, il raconte sa vie, en fait, et son histoire amoureuse avec Anne Chapeau, qui avait des grâces et des attraits, qui charmait les cœurs, il n'y avait aucun défaut en sa personne. Et donc, c'est unique et rare qu'un homme du peuple, avant la Révolution française, parle aussi beau et écrive des choses aussi belles. Du coup, le manuscrit tombe entre les mains du notaire, on va se faire deux fois, on va dire son nom, du notaire de Serran-Foultourte, qui s'appelle Maître Fillon, qui est aussi le papa du petit François. Et maman Fillon édite ce texte, en fait, le fait connaître du grand public à travers un bouquin qui s'appelle Trois Bagaudois, où nous, on a la drôle d'idée en 96 d'en faire un spectacle avec Denis Montjanel et Claudie Douet dans une mise en scène de Pierre Sarzac. Et des lumières de Cyril, je crois, Guillochon. Et du coup, voilà, on a fait ce spectacle, on a joué plutôt en région, mais pareil, une bonne quarantaine ou cinquantaine de fois. Et les gens de la cité du film au Mans, voilà, qui est un très un nouveau temple de la culture cinématographique mancelle, un jour se désolait qu'il n'y ait pas beaucoup d'auteurs, d'écrivains, de scénaristes dans la Sarthe. Et moi, je leur ai dit, je connais un certain nombre de gens qui écrivent des courts métrages, des longs, etc. Ah bon? Et ben voilà. Et du coup, je m'y suis collé. Alors, je ne sais pas bien faire ça, donc je bosse avec un jeune gars charmant qui s'appelle Pablo Meloco, qui est un spécialiste de Bergman. Donc, on est vraiment sur des planètes très éloignées, lui et moi, mais pas tant, parce que vendredi après-midi, on a écrit une page chacun. Génial. Donc on se voit régulièrement pour écrire un scénar qui raconte, enfin, on s'inspire du manuscrit original de Louis Simon. Donc je sais pas, peut-être on aura des droits à payer, j'en sais rien. Et on dit qu'on se donne 2 ans pour écrire un scénario d'un long métrage de fiction en costume, pas du tout d'une série web, hein, vraiment, on s'est donné les moyens, Hollywood, quoi. Et on a dit qu'on mettrait 3 ans à pas le faire et 5 ans à s'en remettre. Mais en tout cas, on est en train d'écrire pour l'instant un scénar dont on a pas une petite vingtaine de pages, ah oui, qui raconte notamment son histoire d'amour, notamment la bagarre avec son rival amoureux un dimanche après-midi, parce qu'au soir de sa vie, c'est ça qu'il confesse en fait. Il dit bon, il y a un dimanche, j'étais un peu nul, quand même, t'es un peu bourré aussi, et l'autre aussi, et Anne, elle avait pas rendu la bague de fiançailles de ce gars-là, et je suis allé prendre le coup de poing avec lui.
Bon, bah, attends, un album, un scénario.
Un album, un scénario.
Des pièces de théâtre.
Ouais, c'est une grande aventure. On va juste lancer un petit son, ouais, et revenir carrément juste après.
Donc, c'est le mien, là.
Ouais, c'est le tien. Alors, je vais te laisser prononcer le titre parce que, encore une fois.
Bah, c'est brésilien, je parle pas le brésilien. Donc, c'est Meu Primeiro Amor.
Eh ben, on lance et puis on revient juste après.
Nasci menina na cidade grande. A maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo. Falava inglês e ouvia Blur. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi. Foi meu primeiro amor. Até hoje eu danço esse calor. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Nossa casa do interior e os nossos filhos cada vez mais lindos. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi. Foi meu primeiro amor. Até hoje eu danço esse calor.
Et voilà, c'était donc...
Bah oui, dis-le.
Ah bah, Mou Primero à mort, de ouais. Lucas Santana.
Tu retournes à l'école, toi, hein. T'as loupé le portugais, j'ai l'impression.
Excuse-moi, monsieur, je fais un effort, j'apprends gentiment, j'essaye de te rendre honneur, et voilà comment je suis traité.
Ah ouais, je t'aime.
Moi aussi,
bébé. Donc, vous êtes toujours sur Galéjade, avec Geoffrey le plus beau, et notre invité du jour, Didier Bardou. Donc, déjà, un grand merci d'avoir participé à cette émission, cette dernière émission. Et donc, on va parler d'un dernier événement ensemble dont tu participes, c'est les Enfants de Scarron en octobre, c'est bien ça ?
Alors c'est bizarre comme bazar, ça aussi. C'est au départ, ça voulait être un documentaire pour France 3, enfin un documentaire qui on a fait un travail de rencontre et d'interview de tous les directeurs de théâtre, enfin directeurs et compagnie, genre La Fonderie, genre Le Radeau, genre L'Éphémère Escarron, genre L'Enfumerai, genre tout ça. Dire la belle époque des années 80-2000 où un certain nombre de compagnies sont emparées de lieux pour en faire théâtre, on va dire en gare ou des anciens hospices pour en faire théâtre comme nous à Boulogne. Et on a interviewé tout le monde et voilà, on a écrit un beau déroulé et France 3 a trouvé que c'était trop local, c'était trop 72, alors que normalement c'est une France 3, c'est une télévision régionale, je crois. Hein. Et malgré une magnifique interview de d'Ariane Mouchkine et de Jean-François Sivadier qui racontait justement le, enfin tout ça, bon. Et du coup, voilà, ça s'est pas fait avec mon camarade Julien Sénéchal de Aix-le-Mont TV. Et j'ai transposé le bazar pour en faire une conférence gesticulée. Alors en 20 secondes, une conférence gesticulée, c'est très prétentieux, c'est une conférence où le conférencier pense qu'il sait tout par rapport au public qui est là, alors que le public qui est là est le public justement dont on raconte l'histoire. Donc les gens de théâtre principalement. Et voilà, donc c'est une posture avec le verre d'eau, la pomme, l'ordinateur et tout pour faire la conférence. Et bien sûr, je fais une espèce de quiz avec le public tout le temps pour dire ça vous le saviez, vous l'avez vu ce spectacle-là. Et là, l'idée, c'est de retravailler cette conférence gesticulée. Ce qui est drôle, c'est que dans ce théâtre qui s'appelle Paul Scarron, la conférence commence par une lecture du premier texte de Scarron, que ça, l'entrée des comédiens dans la ville du Mans, qu'il y a dans le roman comique. Et voilà. Et on en profitera sûrement pour montrer ça aux élèves du conservatoire, aux élèves des options théâtre du lycée Bellevue et au grand public, parce que mon camarade Pablo Meloco a eu l'idée de venir avec une ou deux ou 42 caméras pour filmer ça et d'en faire quelque chose de, je sais pas quoi, une vidéo. Voilà. Après Bardou l'album, Bardou la vidéo, Bardou le spectacle. Nous manquera
une multinationale.
Il y a une dame qui vient d'arriver qui ouvre le bureau derrière, ça fait des courants d'air et là je peux vous dire c'est très agréable.
On est tous en slip dans les studios et ça devient un peu gênant.
Ouais.
Heureusement c'est pas filmé.
Bon, en tout cas un grand merci donc là.
Bah, merci à vous les garçons, belle carrière pour cette galéjure. Hein, pour votre galéjure de la saison prochaine.
On espère.
Merci à vous.
Merci à toi. Donc
Tu me fais signe de tête, ça veut dire que tu veux que ce soit moi qui parle, John ?
Allez.
Oh, c'est très discret. T'as vu ça, le professionnalisme à la radio ? On enchaîne donc avec Mathieu, le retour de l'enfant prodige qui vient nous faire une chronique.
Mathieu qui est, pardon, pour ceux qui nous écoutent, Mathieu qui est quand même l'inventeur avec Geoffrey de Galéjade.
Ouais.
Bah, c'est-à-dire que Geoffrey, c'est le papa et moi, je suis la maman.
Voilà, ouais, exactement.
Donc Galéjade, c'est votre enfant, quoi. C'est votre enfant.
Non, mais il était temps que je revienne. Hein. C'est ce que disait Didier tout à l'heure.
C'est vraiment la merde.
Je voulais vous féliciter pour toute
votre émission. Alors, faut toujours parler dans le micro, d'accord. En fait. ça paraît un peu étrange, mais si tu parles pas dedans, les gens, ils t'entendent moins.
Non, mais en tout cas, bravo pour vos émissions. Hein. J'en ai écouté la plupart.
T'en as écouté deux.
Deux, voilà.
C'est bien ce qu'on disait, la plupart. Ouais.
C'est la 19e, hein, c'est ça, ce soir, la dernière ?
Ouais, c'est ça.
Ah, bah, très bien. C'était des émissions de bonne qualité. Si on fait une impasse un peu sur les problèmes techniques.
Je vais couper son micro.
Non, donc, vous me demandez de préparer une chronique sur le théâtre pour la venue de Didier.
Oui. Ah, exact, oui, c'est vrai, c'était sur le théâtre. J'avais oublié, le thème imposé.
C'est compliqué parce que là, il fait très très chaud, puis il y a de la drogue et du champagne partout là pour la dernière.
Ouais,
c'est pas facile.
On avait dit que ça restait entre nous, mais bon, ça démarre fort.
Mais en tout cas, non, sincèrement, bravo pour ce que vous avez fait de l'émission. Hein.
Et merci. Pourquoi tu es en train de me faire des doigts ?
En tout cas, voilà. Dans le théâtre, ça m'a amusé de chercher des choses un peu dont Didier n'aurait pas forcément parlé, parce qu'il parle beaucoup. Et puis, je le pratique un peu en amateur, et c'est aussi là que j'ai rencontré ma femme.
Alors, il est en train de montrer sa femme du doigt, comme si...
Parce qu'elle est venue là ce soir. Parce
que pour faire le ménage pour la dernière. C'est de la radio, on n'a pas d'image. Hein.
Donc, c'est vrai que ta femme est là.
C'est vrai que je fais des grands signes, mais...
En plus, tout le monde sait que c'est pas ta femme. Bon, bref.
Donc, j'ai fait une chronique. Tu m'interromps, mais dans ta tête, il y a des choses qui...
D'accord. Je corrige à la fin.
On arrive bientôt à la fin de ta chronique. Donc, profites-en, Mathieu. C'est maintenant qu'il faut te lancer.
J'ai dit voilà, donc c'est les vacances, mais il y en a peut-être déjà qui cherchent leur activité pour la rentrée, puisqu'il y a plein de propositions et on peut toujours faire du sport, du pilates, de la musique, et donc pourquoi pas essayer le théâtre. Alors qu'il ne faut surtout pas avoir peur, parce qu'on entend toujours la même réponse. Je suis trop timide, on a peur de sa propre voix, de sa posture. Mais vraiment, il faut foncer, hein, c'est...
Il dit attends à personne. Il est là, attends, lance-toi Mathieu, ça va le faire. On est fiers de toi.
Donc en fait, quand vous ferez du théâtre à la rentrée, dans nos... je ne sais pas si tu as jamais fait des cours de théâtre.
Ouais, encadrer les ateliers, oui.
Donc ça développe beaucoup de choses, hein. C'est plein d'avantages pour celui qui le fait, hein. Ça permet d'exercer sa créativité, développer son imagination, ça augmente l'empathie envers l'autre, on apprend à mieux se connaître et donc à se surpasser, on peut prendre confiance en soi. Le théâtre, il éduque, il cultive et finalement, il peut même améliorer la société. Il véhicule des réflexions qui permettent l'épanouissement de tous les individus. Et c'est aussi avant tout un divertissement, même quand on fait de la tragédie. Un divertissement pour le comédien et aussi pour le spectateur. Donc, n'hésitez pas à foncer, hein, que ce soit comme public ou comme comédien, il faut absolument aller dans les théâtres. Et là, je voulais vous parler d'une une expérience intéressante que j'ai vue, enfin pas en direct, mais qui s'est passée au Festival d'Avignon. Il fait chaud chez vous.
Ouais, je sais. Ouais,
bah. Donc c'est la compagnie Botfo. Je sais pas si t'étais à Avignon.
Non, j'étais pas, non.
Comme par hasard. Donc c'est Bot4Human qui a tenté de faire quelque chose. Ils ont voulu un peu renverser les codes. Ils ont pris le théâtre, qui est le spectacle vivant vraiment par excellence. La transmission directe de l'émotion entre l'auteur et le public. Et ils ont essayé de proposer quelque chose de différent puisqu'ils ont laissé la place à la réalité virtuelle et à des robots. Donc c'est une performance de l'atelier We Are the Robots.
Okay.
J'ai fait un peu d'anglais pour que j'étais pas là.
T'as fait anglais en LV2,
de l'école
toi.
Des mines de Nancy. Et donc ils ont mélangé le théâtre classique et de la programmation robotique. Donc je vous résume rapidement la pièce. Ils disent que c'est un fabricant qui décide de rappeler tous ses robots en raison d'un problème technique. Mais un des propriétaires décide de garder un des robots pour qu'il continue à s'occuper des tâches quotidiennes. Mais petit à petit, c'est le robot qui va prendre le contrôle de sa vie à lui et commencer à lui intimer de rentrer à telle heure, de manger sain et de ne pas trop voir sa copine. Donc en fait, vous avez sur scène des comédiens et un robot humanoïde qui est utilisé comme une marionnette et dont toutes les répliques sont programmées vraiment au millimètre. Et le questionnement de la troupe, c'est de savoir si l'émotion pouvait passer par un robot, voire une intelligence artificielle, comme elle pouvait passer par un comédien comme toi, Didier. Donc ce qu'ils ont voulu montrer aussi, c'est que le théâtre, il est toujours en évolution, il est résolument moderne et il s'est toujours emparé des nouveautés, des nouvelles technologies, comme il y a eu les projecteurs, la vidéo, et donc là ils proposent des robots et ils vont essayer maintenant aussi d'écrire une pièce directement en intelligence artificielle. Donc, ouais, c'est intéressant à voir et...
On parle quand même de robots qui vont te tuer, Didier. Et tu feras plus de théâtre après.
Dans la longue liste des bienfaits du théâtre, il faut savoir aussi que dans les ateliers théâtre, c'est des très beaux lieux de rencontre. Voilà.
Oui, c'est
et c'est vraiment la meilleure agence matrimoniale, c'est quand même les cours de théâtre. Quoi.
Oui, bah oui, on peut en parler. Et oui, bien sûr, même pour les rencontres humaines, et ouais, c'est assez impressionnant. Et là, je fais de la pub un peu copinage. C'est que demain, au Théâtre de la Berthe...
Allez, on coupe le micro de Mathieu.
Il propose un spectacle qu'il joue depuis quelques années... Je marche dans la nuit par un chemin mauvais, d'Amen Madani, et c'est mis en scène par Pascal Laillé. Donc ça revient, c'est des sujets très actuels, c'est une pièce sur la guerre d'Algérie. Et donc c'est gratuit demain, mardi 19, donc à 20h30 au Théâtre de la Bertoche.
Trop bien.
Voilà, c'était parfait, super, honnêtement. Oh, bravo Mathieu, en plus t'as donné le nom, le lieu, l'heure. Oh, magnifique. Belle chronique.
En tout cas, moi ça me donne bien envie de faire du théâtre. Je sais que là, dès septembre, c'est parti, hein, ça commence. Hein. Didier... tu me fous sous ton aile et puis hop, c'est parti.
Hein.
À moi la gloire et.
Ouais, ouais.
Vu que la radio, ça marche pas, et finalement, ils sont rendus dans le théâtre.
Ouais, c'est ça. 10%, c'est 10%, c'est comme le cinéma, comme la série télé.
Exactement.
Qui est très bien d'ailleurs, qui est très bien.
Qui est très bien. Geoffrey me fait signe là.
Eh oui, je fais encore signe pour dire que c'est l'heure de passer le dernier son de l'émission. Déjà.
Déjà.
Eh ouais.
Déjà.
C'est Rotterdam.
C'est Rotterdam avec Paradis Perdu.
Avec Paradis Retrouvé.
Non, c'est une chanson de ma playlist cette fois. Donc c'est Paul Léger, le chanteur des Fatal Picard, qui vient nous chanter le générique imaginaire de sa série Xanthor.
Allez, c'est parti.
Ils sont venus au théâtre de Bouloir, les chantants, les Fatal Picard.
C'est une énergie mentale et psychologique. mais c'est incroyable, je suis totalement perdu. Je ne sais pas ce que je vois, les caméras ont lâché, les gens sont paniqués, ils hurlent.
Papa, papa, j'ai peur.
Ne t'inquiète pas, mon fils. Je l'ai reconnu. Oui, nous assistons à une naissance. C'est la naissance d'une légende.
En plein cœur d'un désert, dans un éclat de lumière, il est venu sur terre. Mais qui est-il? D'où vient-il? Certains enfants murmurent ton nom, Xandor. Né au cœur d'une météorite cosmique et galactique, poursuivi par ton père qui veut détruire la terre. Alors reviens avec moi et ton grand-père, ainsi que ton bon vieux cousin Xarlok, que j'avais bien mal jugé au départ, c'est vrai. Ne perds pas ton temps à sauver cette humanité putride. Rejoins-nous et pourfends avec moi cette infâme planète Terre. Mais Xantor n'a que faire des conseils de son père. Grâce au cristal de Xula, il sait parler aux chats. Il monte donc une armée de chats bioniques et galactiques qu'il perd. Gravité autour de la Terre pour nous protéger de ce père.
Et voilà, c'était donc Xantor du chanteur Paul Léger. Nous arrivons déjà dans la dernière partie de l'émission et nous terminons donc avec nos recommandations culturelles.
Nos recommandations quoi ?
Culturelles ! Ouais !
C'est de l'impro tout ça.
Ouais, je sais.
C'est pour te dire, Didier, vraiment, je vais arriver au théâtre l'année prochaine.
Ouais. Ah mais il montre ses talents tout de suite, John.
Je pense que je vais être vraiment performant. Bon bref, recommandations culturelles, on t'écoute Geoffrey.
Alors là, c'est pas vraiment une recommandation culturelle, mais c'est plus des remerciements que je vais prononcer en ton nom et en mon nom, John. Ah, okay. Si bien sûr tu es d'accord
tu
avec moi.
Tu veux pas une musique de violon ou...
non, je vais vraiment couper son micro à lui.
On savait pas comment ça marchait derrière là-bas.
Non, alors ouais, en fait, on tenait d'abord à remercier, et ce dans l'ordre, Pascal Laillé et Clément Demar de La Bertoche, nos premiers invités, Charlène Épinal, harpiste et chanteuse, Elisa et Hélène, libraires, Charlotte, instagrammeuse avec Les Pensées de Chat, Carl Gou, street artiste paris-sartoise, Julien Carret, dessinateur de bande dessinée. On avait également reçu Chloé du festival À tout bout de champ qui a eu lieu ce week-end, le 16 juillet, et qui était full, qui était complet.
6000 personnes à chanter milieu.
Ouais, c'est impressionnant. Hein
ouais, trop bien.
Donc vraiment un très beau festival que je vous conseille pour l'année prochaine. On a également reçu Jonathan Ludwig, les présidents du club de supporters Virage Sud du Mans.
Yes.
On a enchaîné après avec Anna Asif et Woodia, nos rappeuses locales. Nico et Ellie sont également passés du groupe Tonzinc, qui sont passés chez nous pour nous dire un petit bonjour. Samuel Chauveau, patron de la librairie Bulle. L'équipe jeune de Radio Alpa, à savoir Adèle, animatrice de L'Amphi.
Adèle qui n'est autre que la sœur de Pablo, dont j'ai parlé.
D'accord.
Monsieur.
Léo de C'est bien l'après-midi.
C'est la famille, quoi.
Tout ça, c'est Robin. La famille. Mais j'ai oublié les émissions de Robin. Donc Robin et Théo qui étaient le chargé de communication de la radio. On a également reçu l'équipe de La Percée de l'Histoire, à savoir Simon, Thomas et Salouane. On a reçu Julien, réalisateur et monteur. Merci également à Delphine qui a été avec nous et Cédric,
nos tuteurs. Ouais, qui est dans le studio, là.
Et Delphine est dans le studio. Bonsoir. Merci, Delphine. Delphine, elle nous fait coucou de loin. Je vais allumer un micro. Ça, lequel
micro. Coucou, Gal et Jeanne.
Où est-ce que j'en suis sur la feuille? Ah oui, on a enchaîné après avec Guillaume Fournier de Pianoctambule, Thomas et Paul qui sont venus parler de leur projet musical, Romain de La Perche Comedy Club, et enfin, merci à Didier qui nous a fait le plaisir ce soir d'être avec nous.
Merci Didier.
Oui, ben voilà, dire aux gens, dire aux gens, allez-vous-en sur les places et sur les parvis chaque jour, ils disent non. Et en fait, de profiter des festivals, de l'été, quand même, il y a beaucoup de spectacles gratuits un peu partout, dans les villes, dans les campagnes, et ça, c'est plutôt bien, quoi, voilà, et d'aller à la rencontre de ça, ça va de l'abbaye de Tuffet, en passant par l'abbaye de Lépau, enfin, faut parler que dans les abbayes, mais voilà, il y a donc plein d'endroits qui accueillent du public l'été, et que, voilà, il y a beaucoup de festivités, mais c'est vrai aussi pour Moulinsart, enfin, y compris dans la Sarthe, on a la chance d'avoir un territoire. J'étais aux Affranchis le dimanche d'avant.
C'était génial.
D'autres festivals un peu partout, donc profitons. À plein champ, comme les Chantenay-Villieu et leurs 6000 spectateurs et leur parking trop petit.
Exactement. Ah, ça, par contre, j'avais pas l'info du parking.
Et donc, pour terminer, une petite recommandation culturelle. Je sais pas si on a le temps. On a le temps. Moi, j'en ai pas. Mais
c'est comme ça qu'il termine la saison.
Il faut absolument qu'on reparle de l'événement de demain parce que j'y vais et du coup, c'est juste pour. Il faut qu'on en parle à la radio
Je t'avais envoyé ça en privé.
Donc demain, au théâtre de la Bertoche,
c'est à 20h30. C'est gratuit au théâtre de la Bertoche, rue de la Bertinière, donc à l'entrée des Sablons. Pour ceux qui connaissent pas encore le théâtre, ça vaut le coup d'aller le découvrir. Donc c'est Je marche dans la nuit. Par un chemin mauvais, de Ahmed Madani.
Parfait, merci Mathieu.
C'est 1h15, 1h20 de théâtre. Et mis en scène par Pascal Ayer.
Ah merci pour cette précision. Tu voulais intervenir John, vas-y, je t'ai coupé.
Bah non, c'était pour clôturer cette saison là. J'ai pas préparé de discours de fin, mais je suis très ému. Je suis très ému que Mathieu, voilà, tu sois revenu pour la dernière mission, sachant que t'avais fait la première, qu'on avait bien rigolé.
C'est gentil de me recevoir.
Et moi je serai l'ouverture à la saison prochaine, la rentrée prochaine.
Exactement, c'est génial de t'avoir.
Je serai là tous les lundis soirs à 20h. C'est drôle parce que le lundi soir c'est souvent l'horaire de l'atelier théâtre à l'université notamment et dans plein d'autres endroits parce que traditionnellement c'est le jour où les comédiens jouent pas, c'est le jour de relâche, donc c'est le jour où les comédiens animent des ateliers théâtre et aussi des fois des émissions de radio. Voilà.
Ok, merci pour cette info.
Je ferai ça quand je ferai du théâtre du coup.
Ouais, bah, tu seras pas là donc tu seras feras bien quelqu'un te remplace quoi.
Ouais,
mais je prendrai peut-être, je vais voir avec Delphine ou Mathieu comment on peut s'en.
Ah bah alors là c'est sûr que t'auras meilleur que moi la technique, hein. On va pas se mentir.
C'est une blague.
Et... Donc bah ouais, c'est un dernier mot pour dire un grand merci à tous nos invités, à tous nos auditrices et auditeurs. Voilà, merci pour cette belle saison, on a bien rigolé en tout cas, on a passé bon moment je pense qu'on peut le dire.
Ah ça c'est sûr, on s'est pas ennuyé.
Voilà.
On a fait un travail digne de professionnel. Non, ok.
Non, totalement pas.
Et pour en finir, oui. En mon nom, moi je voulais te remercier aussi, toi John, de m'avoir supporté à la technique toute cette année, de m'avoir accompagné dans cette aventure de Galéjade saison 1.
Ouais.
Donc, je le dis moi clairement, Galéjade reviendra l'année prochaine, peut-être dans la même configuration, peut-être différemment, on ne sait pas encore, mais Galéjade reprendra à la rentrée.
C'est ça.
On est impatients.
Champagne.
Affaire à suivre.
Et pour la dernière, donc vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Instagram de l'émission galéjade-émission ou sur la page Facebook galéjade.émission. Vous pouvez également nous retrouver en podcast sur le site de Radio Alpa. Petite nouveauté, je le disais jamais avant.
Ouais,
c'est la dernière.
En plus, ils sont géniaux, nos podcasts.
Ouais. Quand ils sont enregistrés, ils sont vraiment bien.
Ouais, ils sont vraiment cool. Ou même quand on les enregistre qu'à la moitié, ils sont sympas aussi.
Ouais, ça marche aussi. tu voulais, vas-y.
Non, bah non, moi, clôturer tout ça, bah, je sais pas, comme dirait Manu Chao.
Ciao.
Me gusta la guitare.
Ouais, me gusta tout. Allez, un grand merci à tous et à toutes et à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Ciao.
Au revoir.